Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons aujourd'hui, dans ce studio de la rue d'Assali, le plaisir d'accueillir Jean-Claude Solana, écrivain, poète, homme de spectacle, et notre ami le capitaine Slam, qui nous fait l'honneur de venir accompagner donc Jean-Claude Solana pour une émission qui est consacrée donc à ce poète. Alors, tout d'abord, puisque le capitaine Slam connaît bien Jean-Claude Solana, je vais lui demander comment... D'abord, bonjour, bonjour Jean-Claude, bonjour. Thierry. Je vais lui demander comment il a connu Jean-Claude Solana.
Est-ce que tu pourras en parler, parce que ça l'avait marqué quand il m'avait vu.
Je veux dire comment je l'ai connu lui.
Oui. Ouais,
comment je t'ai connu toi. Je suis tombé sur un... Comment appeler ça? Un plaisantin qui faisait des textes à voix nue, ce que j'appellerais Place du Capitole. Bon, généralement, les poètes sont un peu plombés. Et lui, c'était un poète hilarant. Alors, il m'a scotché. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi? C'est lui, le truc. Hein. Et ça m'a... Waouh! Voilà. Et j'ai... Ouais, il m'a... Ben, depuis, j'ai scotché, quoi.
C'est gros, gentil, hein. Et donc, dans la foulée, Jean-Claude étant fan de moi, c'est flatteur, hein, il m'a invité sur plein de soirées, et ces soirées m'ont plu parce que ça me permettait de sortir de mon carcan slam. Et ces soirées, c'est toujours intéressant, c'est aussi un organisateur d'événements, dans des lieux qui ne sont pas des scènes ouvertes de type slam. Il m'a souvent invité, par exemple, dans un lieu qu'on appelle le 22, c'est pas le 22.
Le salon Rousseau.
Et à l'occasion de vernissage, nous avons été amenés, Meryl Marchetti, que nous avons invité aujourd'hui aussi, qui va peut-être parler tout à l'heure, Meryl Marchetti, Jacques Mégodas, des gens comme Elisa Trocmé, que j'aime beaucoup, des gens charmants et talentueux, Saïd Niffer, mon collègue du slam, qui est un peu un dinosaure du slam, comme moi. Et donc, c'est des soirées où il peut tout se passer, on fait des rencontres, c'est intéressant artistiquement et humainement. Et Jean-Claude n'a pas fait que ce type d'événement, il a aussi mis en place chaque année, tu l'as fait pendant combien d'années ça
4 ou 5 ans.
Tu as animé, chaque année il faisait une grande scène, c'était du côté de chez Claude Sicre, c'était à Montbernard. Tu appelais ça, c'était à noir, à blanc, tu animais ça avec...
À noir, B blanc. Ouais.
Tu as animé ça avec Amina Tazi, qu'on salue, c'est ton ami, c'est mon ami aussi, tu la connais depuis longtemps, et c'est une poétesse aussi d'ailleurs, on aurait pu l'inviter d'ailleurs. Et ils ont animé ça pendant 5 ans, et c'était génial parce qu'on a côtoyé plein de gens différents. Et aussi tu m'avais invité, je me rappelle, à une manifestation que tu avais appelée Résurgence. Ouais. J'ai amené les flyers là pour montrer Christian, et j'étais très fier parce que sur ce programme il y avait le nom de Claude Sicre, qui est mon héros, donc... Il n'est pas venu parce qu'il avait eu un empêchement, mais j'ai quand même cette satisfaction d'être sur le même programme que Claude, ce qui fait plaisir. Quoi. Et donc j'ai aussi aimé, on va en parler aussi, Jean-Claude a récemment écrit un livre qui s'appelle « Les dames de la carte du ciel ». Quand il m'a dit, j'apprécie ce qu'il écrit, c'est un bon poète, mais là c'était quelque chose d'écrit, j'avais peur. Je me suis dit, il veut que je le lise, mais comment je vais faire si je trouve ça nul? Et j'ai adoré. C'est le genre de livre que j'aime parce que c'est un livre où il n'y a rien qui dépasse, il y a le nombre de mots qu'il faut. Et j'ai aimé ce livre qui parle de Toulouse, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et peut-être, oui. Et alors, on va peut-être donner la parole à Meryl, parce que Meryl, à partir de ce livre, il a fait toute une sorte de. Pas de conférence justement, c'était une. C'est un pédagogue aussi, Meryl. Il a fait une sorte de spectacle, en fait, qui s'appelait « Lire, ça déchire ». Et les acteurs, c'était les gens qui étaient présents. « Lire, ça déchire », ça veut dire deux choses. Ça veut dire « lire, c'est super ». Et « lire », c'est aussi le fait de déchirer le livre. Et il mettait le... J'ai adoré, c'était génial. Et moi, ça m'intéresse parce que moi, je me pique d'être un pédagogue. Et Méride, il a aussi ce talent-là d'être... Peut-être on va lui
laisser la parole. Il s'agit de Méride Marchetti.
Marchetti, ouais. Qui pour moi, en matière de poésie contemporaine, il va rougir, là. Mais c'est un des meilleurs poètes que je connaisse.
D'accord.
C'est
lui qui a fait la
postface, ah, voilà. Hein, qui est très drôle, très rigolote,
avec un texte oui qui est très 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 original,
très original et
originalité totale,
exactement, avec des allusions qui m'ont plu, voilà, à la science-fiction,
voilà, dont on parlera tout à l'heure, de ce livre de Jean-Claude Solana, Les Dames de la Carte du Ciel, aux éditions Interstice,
voilà,
dont nous allons parler. Alors Méride Marchetti, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci, alors je vais mettre un peu plus fort de manière à ce qu'on entende bien. Oh, pardon. Voilà. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Cette émission sur Jean-Claude Solana avec votre ami le capitaine Slam.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de Jean-Claude Solana et puis plus particulièrement des dames de la carte du ciel?
Oui, bien sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jean-Claude. Moi, ce qui m'a frappé, la première fois que j'ai rencontré Jean-Claude, effectivement, c'est à Arnaud Bernard. Il y avait une discussion socratique autour de l'accident d'AZF, donc quelque chose de très vif avec beaucoup de débats. Et Jean-Claude était venu et avait dit un texte. Et ça avait été un moment très très frappant, quoi, parce que il a, quand il dit ses textes, c'est à la fois sa manière de vivre la ville de Toulouse, et en même temps c'est des formes qui vont capter des impensés, des choses qu'on a tous les jours devant les yeux et qu'on ne voit plus. Des oublis de l'histoire, et donc c'était vraiment un texte où on sentait sa propre vie se transformer au fur et à mesure que le texte se transformait, et ça avait marqué tout le monde ce jour-là. Voilà, Jean-Claude, c'est un auteur qui n'imite personne, c'est un auteur qui est inféodé à aucune école. Et du coup, il y a une conscience très très vive du fait que, voilà, dans le sud de la France, il y a une langue, la langue occitane, il y a une littérature qui va avec, et il y a aussi une littérature en langue française qui n'est pas une imitation de celle de Paris, qui a sa propre vie au quotidien dans les différentes villes. Et lui, s'est capté tout ça et nous le renvoyer de façon... baroque, extravagante, très subjective, et voilà, c'est une vraie conscience de tout un tas de choses qui sont pas forcément vues. Allô?
Oui, nous écoutons on est là, avec beaucoup d'attention.
Voilà.
Non, mais je trouve que c'est très pertinent ce qu'il dit.
Oui. Ouais.
Après, Jean-Claude, c'est aussi quelqu'un, moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude, c'est quelqu'un qui aime l'action, qui aime organiser des choses, tu l'as dit tout à l'heure, Captain, c'est quelqu'un qui sait monter avec trois bouts de ficelle des événements sur la place publique et faire exister la poésie. Et en plus, ça se passe simplement, quoi. Il y a un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, tu vois, on avance, quoi. On n'est pas là à se tirer la bourre, on est... C'est quelqu'un qui sait créer des événements autour de la poésie, qui renforce l'amitié entre les poètes, plutôt que créer des événements où c'est de la concurrence, où c'est de la jalousie, où c'est du petit star system. Il est vraiment très fort pour faire vivre... voilà, pour créer une dynamique qui développe l'écriture dans notre société et l'écriture dans la rue, parce que souvent ces événements, c'est sur des places publiques, c'est dans des lieux ouverts. La scène n'est jamais vraiment fermée à personne, il y a toujours un moyen d'aller chercher des gens qui écrivent et qui n'osent pas venir lire leurs textes. C'est puissant.
Peut-être que tu pourrais évoquer ce que tu avais fait à partir du livre de Jean-Claude, lire sa déchire.
Ouais. Alors ça, tu vois, c'est une pratique, en fait, ça vient, c'est une pratique qui est une vieille histoire, ça vient des bourses du travail, quand le mouvement ouvrier a voulu, a eu besoin de s'emparer, tu vois, de textes théoriques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient en groupe, ils prenaient un livre, ils le déchiraient par trois pages, ils le partageaient dans la salle, donc chacun avait trois pages, et après, ils discutaient dans l'optique, on va reconstituer le livre à partir de nos lectures. Voilà, donc c'est une pratique pédagogique dont se sont emparés après les mouvements pédagogiques. Moi, personnellement, je suis au groupe français d'éducation nouvelle, le secteur poésie écriture qui a été créé par Michel Cohen. Et voilà, c'est une pratique qu'on utilise aussi bien dans des lieux militants que pour ceux qui sont enseignants dans des classes ou sur des stages. Ou... Voilà, ça permet de s'approprier un livre collectivement très rapidement et d'apprendre que la lecture, c'est toujours une lecture critique, c'est toujours une lecture en débat, toujours une lecture avec les autres secteurs. Et oui, avec le livre de Jean-Claude, ça avait été... Il était marrant, il y avait eu des...
Ah oui.
Après, Jean-Claude parlera sans doute de son livre et vous verrez les impensés. Les surprises qui sont les dames de la carte du ciel.
Ce qu'on va demander peut-être à Mireille Marchetti, c'est de lire aussi, quand Jean-Claude va lire quelques extraits. Pardon. Donc Jean-Claude va lire quelques extraits de Les Dames de la Carte du Ciel, de demander également à Meryl Marchetti de lire des extraits aussi de la deuxième partie de ce livre.
Si c'est important, hein.
Oui,
bien sûr. Si tu l'as sous les yeux.
Je l'ai sous les yeux.
Super.
Bon, parfait.
Parfait. Non, je vous propose un truc.
Enfin, oui.
J'ai un texte quoi, enfin, auquel je tiens. Et que j'aimerais diffuser.
Oui.
Parce que, voilà, c'est pour ça aussi que je
oui,
suis.
Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Oui. Et, bon, je peux le faire, hein.
Oui.
Mais parce qu'il est un peu long.
Oui.
Voilà. Et j'aimerais bien que les auditeurs me cliquent. Voilà. Et parce que c'est important pour moi. Et je pense que c'est une des dernières fois où je vais le faire. À chaque fois, je dis ça. Hein. Mais bon. Ça oui. fait un bon. Paquet d'autant que je traîne ce texte, quoi, ça fait plus de 20 ans, ça fait des dizaines, voire des centaines de fois que je le fais, à mon moment donné, il faut que je me calme, donc quand c'est stop, j'y vais.
Oui, oui, bon, mais on va commencer par ça,
on y va.
On va commencer par ça, alors il s'agit de ce que, j'ai eu les prémices de ce texte, il s'agit d'un long poème, quel est le titre de ce...
J'ai vu des oiseaux voler à l'envers.
Voilà, j'ai vu des oiseaux voler à l'envers. Je pense que tu expliqueras après
ouais.
d'où est venu ce titre. Hein.
Tout à fait.
Bien, on l'écoute. Jean-Claude Solana dans ses œuvres.
Le désordre amoureux, noué ou dénoué, selon la ville, l'hiver, des voitures longes les vitrines du bar, le mouvement. Sans cesse, on a joué la guerre de nouveau, après avoir rasé la messe dite, les vitrines baissées, le business continue et la caravane trépasse. Enfin, ils essaient de l'encercler comme à l'époque les Indiens. Ai-je acheté le programme, l'heure des festivités, pas besoin, la télé dégueule me sert à domicile. Nous faillîmes périr plusieurs fois à New York, à Toulouse, à Kaboul, la parano à tout étage. Nous étions dans la gueule du monstre qui dégueule l'histoire et la poubelle de l'histoire. Un monde de cul de basse fosse où des silhouettes arrachées de ventre d'avion mou avancent enchaînées, cagoulées, avalées dans une nuit bleutée. Fantômes erratiques au lit sanglé, au jour cachetonné. Et vous voudriez cultiver l'optimisme. Plus trop. Enfin, je m'entraîne quand même. Allez savoir, ça peut servir. Si je compte survivre, Quelques nuits étoilées, deux, trois tours de piste sur un air de fanfare, et le tambour qui retentit. And now, ladies and gentlemen, the show must go on. Et l'histoire se chargea une nouvelle fois de brouiller la donne. En septembre, en New York, les Twins en flammes qui s'écrasent. Papa, j'ai essayé de te téléphoner plusieurs fois, il se passe quelque chose à New York. Et moi, Fino, que veux-tu qu'il s'y passe ? 21 septembre, Toulouse, 10h20. Je venais d'un footing, rentrer dans la cuisine pour jeter un œil à mon chrono réveil. La porte-fenêtre s'ouvre, et moi, dans une vague d'air, je chaloupe. Voisin du préfet, je pense donc aux Corses. L'antiquaire, dans la cour, portable vissé à l'oreille, penché pour Ben Laden, et nos rues, 20 minutes après, baignées dans l'ammoniac. J'étais parti aux nouvelles avec mon fils, je n'avais pas pensé à refermer les fenêtres. Des gens, dans la rue, quelques blessés, appréciaient même New York, de scotcher Toulouse et faire 3 TLT, fallait rester chez soi, confiné. Je disais, si je vois des mecs porter un masque, mon compte est bon. Je me résignais à la disparition. Le Premier ministre livre son arbitrage à des F fermes, le reste du pôle chimique doit vivre. Je me souviens, Toulouse, ville morte. Restez chez vous, Dieu reconnaîtra les siens. De 11h du mat à 5h, la télé entre les oreilles, le Maroc dans les bronches et un linge mouillé sur le nez en alternance. Et la ville bloqua, nous fîmes un peu la gueule pendant une semaine. Parler du bonheur d'être encore vivant, c'était se réjouir du sort des 30 morts, des 10 000 blessés et des traumatisés. Nous faillîmes, comme en 14, périr du gaz, le phogène. Je me souviens, je vivais au-dessus de l'usine de Lac, grosse fuite, population avoisinante déplacée. Nous étions en hauteur, nous ne risquions rien. Le gaz est plus lourd que l'air. À la suite de cet incident, nous eûmes droit au masque à gaz. J'étais enfant, je grandis, mon masque dilatait très peu. Et je vins à Toulouse, croyant échapper à un destin tracé. Et puis, j'eus comme un doute, j'étais invité, décision judiciaire, à renouveler mon stock de plumes d'ange, à Marchand. Vous voyez cette plume? C'est une plume d'ange. Un ange était là. J'irai, cache-tourné, je jouais des pendules, bouffais des madeleines que ma sœur m'amenait par brasser, et, en face, l'usine, à quoi on échappait les nœuds en tout genre, on savait que ça pouvait péter. On avait donc servi à domicile l'accident de travail, marrant, surtout de loin. Mes semelles devant, sur le bord de Garonne, en Palou, nous nous étions croisés 20 minutes avant. Avec ses deux chiens, il allait vers l'usine. Il entendit une première explosion, s'accroupit instinctivement, les chiens aussi, mains sur les oreilles. J'ai vu les oiseaux voler à l'envers. Je ne le reverrai sûrement jamais plus. Ça le temps pour les anges. Et les neuneux, livrés aux quatre vents, leur suivant s'éclater. Nous fûmes un temps cause nationale, et la Garonne file, serpent d'eau dans la ville. La mémoire se fige et la vie continue. Le même plan joué depuis des siècles. Ils inscrivent l'histoire dans nos chairs, récusent notre présence. Le temps nous a appris à nous méfier des maîtres. Ai-je l'esprit tranquille? L'usine ayant sauté, c'est un souci de moins, et la guerre est finie. Une jolie croisade qui occupe le ciel et qui gentiment rase. Du monde, dessous, plus trop. Et nous, question croisade, faut plus nous en promettre. On a donné il y a longtemps. Certains voulaient penser leur vie à leur façon. Nulle trace, la mort au goût de cendre, et le vent pour allier à l'oubli. Ville, rose, brique de rue aux airs d'eau qui filent les chaloupes, le flux, le flot des gens et les regards qui portent embrasent dans ce dédale le hasard. Ville ouverte, fermée, ruelles vagabondes, des porches entrouverts, des ondes de verdure, l'air du temps, un hiver facétieux, glacial avant qu'il tombe, puis clément, presque doux. La vie dans un miroitement de fleuves, aux écailles changeantes, aux eaux soumises aux nuages, à la neige, à la chimie aussi, un drôle de mélange, et le chant des oiseaux dans les cours l'été. Sinon, des pigeons à l'emmener, vole et se pose à deux dans les niches de pierre. Et les yeux que j'attends, que j'espère, comme reflet d'amour en cours.
Claude Solonin, donc, ce que ne voient pas les auditeurs, mais pour cause, c'est que ce texte, il le dit par cœur.
D'accord.
Voilà, il ne lit pas, il dit ce texte. Alors, je comprends peut-être l'insistance avec laquelle Jean-Claude Solonin voulait pouvoir, justement, sortir ce texte qui fait référence à un événement qui, maintenant, a 14 ans.
Oui.
Un événement qui a marqué Toulouse.
Qui
a marqué Toulouse, c'est l'explosion de l'usine AZF, qui était une usine d'ammoniac.
Et dans le texte, enfin, juste une parenthèse, façon de parler, dans le texte, je dis qu'il y a 30 morts. Mais des morts, il y en a eu 200.
Oui.
Voilà. Parce qu'on compte les morts sur 24 heures.
Oui, oui. Voilà. Oui.
Et malheureusement, sur quelques jours, il y en a eu 200. Voilà. Dont les autorités ont dit, ouais, bon, il y a 30 morts, c'est pas grave. Quoi. Et donc, une fois, j'ai sorti ce texte en expliquant à la fin que, bon, il n'y avait pas 30 morts, il y en avait 200. Et il y a quelqu'un de la mairie qui est venu me voir en me disant, monsieur, vous n'avez pas le droit. Je lui ai dit, mais quel droit ? Bon, c'est complètement ridicule. Bon, bref. Donc, il y a eu 200 morts. Autre information, et ça que je l'ai tenu par quelqu'un de la DRIRA, c'est les mecs qui s'occupent des accidents industriels, l'usine avait déjà sauté. Voilà. Et l'usine avait déjà sauté, et j'avais un médecin de famille à un moment donné, enfin une médecin, et son grand-père, quand ça a sauté, il était à vélo, il est passé devant. Donc il s'est fait souffler, le pépé. Et je pense que c'était un rejeton de la bourgeoisie toulousaine. Et c'est lui qui est à l'origine de la création de la roseraie. Parce qu'il s'est dit, de toute façon, ça va répéter. Donc si ça répète, il y en a qui seront, enfin, qui survivront, on va les mettre derrière le joliment. Après, je sais pas si c'est rigolo, mais c'est comme ça. Et c'est elle qui m'a dit le nombre de morts. Ouais. Voilà. Le PV, la mémé,
mais bon, ce qu'on a entendu, c'est avant tout de la poésie aussi. Comme quoi la poésie, la plus grande poésie aussi, est une poésie qui est amarrée au vécu, d'une façon ou d'une autre.
C'est vrai.
Voilà. Il y a à la fois, bon, il y a l'imaginaire dans les métaphores, dans les images, dans les attachements d'images à une autre, mais on sent dans le souffle, et je le dis sans mauvais jeu de mots, on sent dans le souffle de ce poème, de ce long poème, on sent effectivement la part, je dirais majeure, du vécu qui a inspiré le texte.
Ouais. Disons quand ça a explosé, enfin, ce que je me suis dit à cette époque-là, tu n'écris pas là-dessus. Tu n'écris pas, enfin, c'est parce que c'est une émission, une émotion collective, il y a des morts, machin, etc. Et j'ai pas envie. Enfin, franchement, j'avais pas envie. Enfin, non, laisse tomber. Et c'est sorti. Voilà. Et donc j'étais. Ah ouais, ah bon, d'accord. Et après, bon, à l'époque, je l'ai répété avec un ami qui faisait un bruitiste. Donc c'était le texte, et avec des bruits de ferraille, enfin, un truc conséquent. Et on avait répété dans un studio, tous les deux, machin, etc., enfin, quelques temps, et on s'est dit, c'est les Toulousains qui vont nous permettre ou pas. Et on l'a fait une fois sur une place, quoi, et les gens, on a vu que les gens, ils étaient d'accord, quoi. Parce que c'était leur histoire, et... Voilà, et ils ne se sentaient pas dépossédés, enfin, en gros, hein, voilà. Et c'était pas une OPA que je faisais ou qu'on faisait sur un événement majeur qui s'est passé à Toulouse. Parce que bon, j'aime Toulouse, et dans le texte aussi, il y a une référence à Claude Nougaro, que voilà, fait un film d'ange.
Oui.
Voilà, c'est pas n'importe quoi comme texte, quoi. Donc voilà, c'était pour dire à Claude aussi, total respect, Claude.
Je crois qu'il y a eu une publication quand même de certains poètes qui avaient fait paraître à l'époque un ouvrage collectif sur AZF, peu de temps après.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie intégrale de notre histoire.
Tout à fait.
Alors, c'est une histoire qui, moi je vois, pour avoir été, moi, ce jour-là, j'étais en première ligne, d'une façon professionnelle. Quasiment 24 heures sur 24 pendant au moins la première semaine. Donc ça a été quelque chose d'excessivement dur. D'autant plus que, en ce qui me concerne, même personnellement, j'avais une partie de ma maison dont je savais que le toit pouvait s'effondrer. On avait mis des étés, une entreprise était venue immédiatement, mais des étés, mais je savais que ce toit pouvait tomber aussi.
Voilà.
Et j'étais, moi, en contact avec les gens sinistrés, donc quasiment tout le temps. On s'arrêtait 4 heures, 5 heures dans la nuit pour essayer de dormir un peu, et après on repartait. Leur faire les papiers, les assurances, s'occuper de tout ça, parce qu'il y a une partie administrative très importante dans tout ça. Il faut immédiatement réagir pour les assurances, pour les aides, pour donner les ordres. Voilà. Mais c'est fait partie de cette mémoire collective de Toulouse, et je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais c'est vrai que cette mémoire-là, on l'a mise, on la camoufle un peu. Elle est en train de s'atténuer, c'est pour ne pas dire que souvent elle disparaît. Elle disparaît. Sauf les gens qui ont peut-être été totalement impliqués. Je pense par exemple à un poète qui est mort peu de temps après, qui est un grand poète d'ailleurs, Jean-Pierre Medge. Jean-Pierre Medge, qui a été un des le secrétaire de Escala Sud, et qui lui était pas loin d'AZF. Il était sur son lit et le plafond lui est tombé dessus. Voilà. Il n'y avait plus d'appartement, il n'avait plus rien, hein, il habitait de côté de la route de Saïs. Et il est allé vivre dans une maison qu'on lui avait prêtée dans un petit village. Et il est mort peu de temps après.
Ça a été hyper violent.
Voilà. Donc c'est bien que ce soit un artiste, en l'occurrence. Alors il peut y avoir des artistes plasticiens aussi, hein, qui peuvent s'emparer de ça pour refaire vivre de nouveau cette mémoire. Et c'est bien qu'un poète puisse de nouveau vivifier cette mémoire-là, ce qui s'est passé, parce que c'est important pour l'histoire de Toulouse. Et ce que je trouve bien, c'est quand même de pouvoir le faire comme tu viens de le faire. Et moi, j'ai écouté ce texte avec une certaine émotion, 14 ans après. 14 ans après.
Ouais.
Alors que je fais partie de ceux qui ont eu cette volonté d'effacer.
23 ans après.
23 ans, non.
Oui, en 2001.
Et oui, 23 ans après, pardon. Oui, oui, il était
23 ans après.
voilà, 23 ans après. Ah, oui, ans. Oui, oui.
Et moi, fait 23 ans que je...
Et oui, oui, oui.
Que je le sers, quoi.
Oui.
Voilà. Et généralement, je le fais à une ou deux personnes. Voilà. Enfin, rarement sur scène, parce que... Voilà. Et je l'ai fait sur scène avec Marco, un ami brutiste qui est maintenant disparu. Et... ouais. C'était bien. C'était bien. Voilà. Parce qu'en même temps, mêler, comment dire, un brutiste, quoi, c'est particulier, comme univers.
Oui.
Et ça, c'est pareil, c'est de la poésie sonore, encore.
Oui.
Voilà.
Mais dans ce texte, il y a tout l'atermoiement de cette journée, c'est-à-dire rester chez vous, le préfet qui interroge, on va chez le préfet nous dit qu'est-ce qu'on fait, eh bien, on ne sait pas. Bon, alors dites aux gens de rester chez eux, de calfeutrer les fenêtres et qu'ils ne bougent pas. Ça a été l'immobilisme. Voilà. Et il fallait, nous, notre mission, c'était d'arriver à cet immobilisme, donc d'obliger les gens à faire ça, quoi.
Mais moi, j'habitais juste derrière chez le préfet. C'est-à-dire, j'avais vu sur préfet. Et donc, j'avais été renseigné, parce qu'à un moment donné, comme la préfecture, elle était à 300 mètres, j'ai été chez la préfecture. Et il y avait un journaleux de ces radios qui captait les émotions des passants ordinaires, dont moi. et qui me dit, alors qu'est-ce que vous en pensez, machin, etc. Et moi je lui dis, ça craint, parce qu'il y a du phogène là-bas. Et quand j'ai dit phogène, il a sorti le micro. Genre, non, il n'y a pas. Voilà, mais si, si. Et alors ce qui était marrant, c'est marrant, de façon de parler, j'habitais à l'époque rue Fermat. Rue Fermat, donc c'est à côté de la place Saint-Étienne, quoi. Et le souffle s'est engouffré. C'est une sorte de canal. Et oui, nous, à un moment donné, on était dans l'ammoniaque, quoi. Et comme j'avais pas refermé les fenêtres, hein, je l'ai fait après, je suis resté, je sais pas, du moment où ça a pété jusqu'à 5-6 heures le soir. J'étais dans le brouillard.
Oui.
Et il y a une seule personne qui a réussi à me contacter. C'était quelqu'un qui vivait à La Haye, aux Pays-Bas. Et lui, il a eu les téléphones de l'étranger pouvaient passer. Tous les téléphones sur Toulouse, c'était râpé. Il y avait trop de monde qui voulait.
Oui, ça saturait.
Ouais, ça saturait.
Et ouais. Puis, ce que tu dis là, le souffle qui est passé, ça explique les deux coups de tonnerre qu'on a entendus. Les deux secousses.
Et moi, j'ai une copine aussi qui, à cette époque-là, qui était en face d'AZF. Et elle est, secrétaire, etc. Et on leur avait dit, s'il se passe quelque chose, à un moment donné, vous allez à la cafétéria. Et elle était dans un bureau en train de prendre des notes, quoi. Et le souffle, elle s'est retrouvée dans le mur. Voilà. Après, elle a essayé d'aller à la cafétéria. La cafétéria, elle était détruite. Hein. Et, elle a essayé, elle s'est dit, il faut que je m'en aille, quoi, il faut partir. Et elle a croisé des mecs en combinaison, en scaphandrier. Et là, elle a flippé. Et franchement, elle s'est pris un choc, quoi. Enfin, ça a duré plusieurs mois. Elle était, traumatisée, on pourrait dire, ouais. Salut Isabelle.
Alors, ce poème, est-ce qu'il va être publié? Parce que c'est pas tout.
Ben, la dernière fois, je l'ai fait Place Belfort. Place Belfort. Et il y avait Serge Paye. Bon. Avec Serge, on a une histoire très, très particulière tous les deux. Bon, lui, je considère que c'est le pape, le vrai pape, quoi. Moi, je suis le pape, mais des clandestins, quoi. Donc, on est deux papautés. Et les papautés, c'est jamais très bon, quoi, quand il y a plusieurs papautés. Bon, bref. Donc, Place Belfort, j'ai fait ce texte, quoi, et il y avait Serge dans le public, et quand je suis descendu de scène, il est venu m'embrasser, et il m'a dit, waouh, transporté, machin, etc., ok, et il m'a proposé une préface. Bon, une préface de Serge Paye, c'est, pour un éditeur que je suis, c'est du pain béni, quoi. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais c'est très bien. Parce que je peux sortir une plaquette, ça va pas être très très cher, ça peut être un bel objet, et je peux le diffuser. Voilà. Donc je sais pas s'il tiendra cette parole, hein, parce qu'il m'a dit, donc il m'a filé son mail, j'en ai profité pour lui envoyer un mail, en lui disant que tu m'as promis une préface. Hein. C'est pas rien une préface, en plus de paye, quoi. Enfin, après ça vaut ce que ça vaut, mais disons pour quelqu'un qui écrit un texte un peu particulier sur la ZDF et sur Toulouse et qui veut que ce texte soit une empreinte, quoi, enfin reste dans l'histoire, mais il y est dans l'histoire, mais davantage, dirons-nous. Et puis j'ai envie que les gens le connaissent, quoi, mettons. Voilà. Et donc la dernière fois, je l'avais fait aussi à Porte de la Fontaine, ce texte, avec une personne qui s'appelle Awad, qui est un poète touareg. Et quand je lui ai fait le texte, il était enthousiaste, quoi. Enthousiaste. Voilà. Donc, il y a des gens... Awad, lui, il travaille sur ce que fait la France au niveau uranium au Niger, quoi. Donc, c'est un poète militant, aussi. Il vit avec une anthropologue. Et, j'ai pas pu écouter, parce que la poésie, le problème, c'est ça. On entend une fois, c'est pas suffisant. Il faut entendre une, deux, trois, quatre, cinq. Au bout de cette fois, on peut se faire une idée, quoi. Voilà. Moi, c'est ce qu'il m'a fallu une fois pour une adaptation de Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Il m'a fallu sept fois pour entendre le texte, quoi, dans la globalité. Parce que tu perds deux mots, t'es mal, quoi. Je vous
c'est pour ça qu'il faut le publier, le texte.
Hein?
C'est pour ça qu'il faut le publier.
Ce qui est très juste, parce que moi, ça fait, c'est la quatrième fois que j'entends ce texte, et c'est vrai que je comprends mieux. Là.
Oui.
Oui, ouais, j'imagine aussi. Ouais.
Ah. Il faut le lire. Il faut le lire. Il faut l'avoir écrit quelque part.
Je suis d'accord avec les c'est compréhensible, ces réticences à écrire sur un tel sujet. Quoi. C'est
oui.
normal. Il faut trouver l'angle d'attaque.
Oui. Oui.
Vous avez écrit là-dessus, Christian?
Non. Non.
Moi, j'ai écrit un truc, mais c'est vraiment. Moi, c'est vraiment. C'est complètement ridicule de le faire après ce texte, parce que, bon, j'ai fait un petit texte oulipien.
Non, mais toi, t'es pas ridicule. Hein. Thierry, mais... Bon, alors mais,
non,
aux,
mais
aux auditeurs, Captain Slam, c'est une légende urbaine. Non, non, mais c'est une réalité, c'est une légende urbaine. Alors, il faut l'avoir vu, il faut le voir,
ouais.
et entendre ces textes, quoi. Et à chaque fois, enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est un bonheur, et à chaque fois, c'est une surprise. Voilà.
Alors, comme tu m'encourages, je vais le faire parce qu'il dure 40 secondes. J'ai fait ce que les Olympiens appellent une morale élémentaire. C'est-à-dire, il y a trois colonnes, et au milieu, il y a une phrase qui explique le poème. Cité paisible, accent sympathique, climat tempéré, recherche spatiale. Bruit formidable, explosion terrifiante, fenêtre brisée, maison détruite. Le spectre de Claude plane dans l'air, celui d'AZF aussi, hélas, ainsi que celui d'Hiroshima. Images terribles, reportages télévisés, nuages bizarres, paranoïa dickienne, angoisse diffuse, relogement difficile. Et j'ai une version plus pop où... À la place, le spectre de Claude, je dis Godzilla, est-ce toi qui t'en prends à Toulouse? Godzilla, est-ce toi qui t'attaques à Toulouse après t'en être pris au peuple japonais? Ouais, c'est une variante. Peut-être Meryl as-tu écrit là-dessus, toi? Il entend Meryl? Il n'est plus là?
Il n'entend rien.
Non, je n'ai pas écrit sur AZF et je n'ai pas écrit de texte sur Jean-Claude. Bien sûr qu'il faut en faire une édition.
Oui.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors, moi, il me semble qu'il y avait une première version du texte qui avait dû paraître aux éditions du Corbeau, dans un recueil collectif.
Ouais, mais on peut faire un truc plus court, quoi. Enfin, mais
c'est une version qui est obsolète. Mais il y avait eu quelque chose. Je sais que ça avait été évoqué de le publier dans la revue La Ligne Imaginote à l'époque, mais ça s'est pas fait. Voilà quoi, ça serait bien que ce soit sous forme de livre quoi, plutôt que dans une revue ou dans un recueil collectif, c'est sûr. Après, c'est un texte énormément de Toulousains, mais pas seulement de Toulousains, mais énormément de Toulousains ont entendu de la voix de Jean-Claude. C'est, Jean-Claude a un rapport très très particulier à ses lecteurs. Quand il publie un livre, il se bat pour assurer la diffusion du livre lui-même. Et il rencontre beaucoup de ses lecteurs. Et il leur demande de lui faire des retours sur ce qu'ils ont lu. Et ça, c'est quelque chose qui est très très particulier à Jean-Claude. Dans ses textes, il y a un dialogue entre lui et ses lecteurs. Parce qu'après, les lecteurs apparaissent dans ses textes, ce qu'ils ont pu dire peut apparaître, etc. C'est un phénomène vraiment... C'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Et c'est un drôle de projet pour un écrivain de poursuivre comme ça autant de gens. Je sais pas, t'as peut-être quelque chose à en dire, Jean-Claude, parce que c'est vrai que ça t'est propre, ce truc.
Peut-être tu pourrais... Jean-Claude peut-être va se préparer pour dire d'autres textes. Peut-être ouais. Vraiment tu pourrais nous faire peut-être un texte, Meryl, je le suggère. Parce que je veux
alors,
qu'on t'entende.
Tu veux que je fasse une impro? Parce que j'ai l'habitude d'improviser plutôt que de lire mes textes.
Okay.
Je tremble beaucoup trop quand...
Vas-y.
Je tremble beaucoup trop quand je lis un texte. Je ne sais pas comment risquer pour une fois que le vent sédimente les fruits attirants sur l'araignée la capacité de cicatrisation, brèche, non colmatée, la vengeance doit se déplacer et trouver un nouvel objet. Des émeutes d'avant les nuages, des émeutes d'avant la respiration. Tu n'es rien de ce qui passe par toi, mais tout ce que tu en fais, car dans l'oracle, il n'existe ni cause ni effet. Nous avançons de cercle en cercle. Où et quand le serpent va se stabiliser? Unité qui contemple ses parties, apprendre ou interroger l'histoire. De l'explosion en des amondes, on se voyait énorme et déformé au sentiment de gaz dans le passé, répond l'intuition du masque à venir, un rêve sans rêve d'avant la naissance, mais d'après la conception, ouvrir une dimension qui ne pourra plus être refermée. Je parle parce que je respire mal le silence. Grossi, le lecteur, il est toujours un auditeur qui se déplace de travers de l'auditeur, comme un onglet à travers lequel des transferts de fichiers permettent de passer d'un monde à un autre, la forme du jour, une procédure en attente d'exécution, car nous avons l'âge d'un coup de vent.
Bravo. Je suis parfaitement incapable de faire ça. Moi.
Merci.
Improvisation.
Meryl Marchetti. Alors, Jean-Claude Solana, maintenant, on va parler pour les dernières minutes, pardon, qui restent de cette émission. On va revenir à ce livre, Les Dames de la Carte du Ciel, si tu le veux bien. Peut-être on pourrait, puisque Meryl Marchetti est avec nous, on pourrait peut-être demander à Meryl comment il a eu connaissance de ce texte et comment il a voulu participer à ce livre.
Ah, comment j'ai eu connaissance du texte? Bah écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Jean-Claude, on se voit souvent, Jean-Claude monte des projets et je m'y associe. Et puis on se retrouve aussi à l'extérieur de Toulouse, sur le festival du Zest, tout ça, donc on est des très bons potes. Et donc Jean-Claude m'avait envoyé le texte. Au départ, l'idée c'était de le lire, et puis tu vois, de regarder un peu tout ce qui relève des corrections, tout ça, voilà. Et Jean-Claude me disait, quand on va le sortir, il faudrait qu'il y ait une postface. Enfin, il imaginait la forme de l'objet livre, quoi. Le visuel de couverture, la quatrième de couverture. Il avait l'idée de mettre un petit plan dessiné des quartiers de Toulouse dont il parle, etc. Et à un moment donné, il m'a demandé une préface. Donc il fallait... L'idée, c'était de faire une préface qui permette à la fois de connaître un peu l'auteur et en même temps... De permettre au lecteur de, je sais pas comment dire, pas d'entrer dans ce texte-là, mais d'entrer dans l'univers d'écriture de Jean-Claude. Franchement, je savais pas trop comment m'y prendre, quoi. Et du coup, j'ai fait une espèce de nouvelle d'héroïque fantasy. Au tout début de la nouvelle, je raconte la vie de Jean-Claude comme s'il était un personnage d'un univers de Tolkien ou de Star Wars, ce qui permettait de raconter un peu sa jeunesse de sportif, sa jeunesse militante, tout un tas de bêtises qu'on peut faire et qui sont importantes, qui orientent le reste de notre vie. Sans pour autant que ce soit, je sais pas comment dire, impudique. Donc, voilà.
Donc, ce qui était prévu comme préface, hein, parce que quand je sors un bouquin, des fois je l'essaie avant des gens, je file le texte, etc. je vois leur réaction. Alors, le texte de Méril, il y avait deux blocs. Un bloc enthousiaste et un bloc qui ne comprenait rien de rien. C'était hyper rigolo.
Allô ?
Donc, je suis en train de perdre la moitié de mes lecteurs. Penser à une postface. C'est une lâcheté de ma part de mettre en postface, mais je pense que c'était mieux. Voilà. Mais en ce qui me concerne, le texte, quoi, moi j'adore ce texte. Quoi. Et en même temps, le texte, quoi, d'où est-ce qu'il le sort, c'est suite à un entretien qu'il m'a fait dans le jardin. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment, il m'a posé des questions, machin, etc. Bêtement, naïvement, j'y ai répondu. Et je me suis retrouvé avec un texte, quoi. C'était assez marrant. Enfin, il aurait pu travailler pour le KGB.
Alors, Jean-Claude, selon on va te demander de nous lire, pour les dernières minutes, de nous lire des extraits de la Dame de la Carte du Ciel.
Ok. Avant, si vous le permettez, oui, j'ai un texte que... Enfin, voilà. Alors, j'ai écrit ce texte dans les années 80. Je pensais que ça serait fini. Enfin, c'est parce que c'est l'histoire que je raconte, truc à la con. Eh bien non, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky, me trouble, me bouleverse, parce que j'aime les Kanaks, je les connais pas, hein, enfin, pour autant, mais je les aime, quoi. Enfin, c'est chez eux, c'est leur terre, quoi. Et avec nos gros sabots, quoi, ploc, 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 voilà. Et il y a des morts, il y en avait 22, plus 7, ça fait 29. Malheureusement, j'ai le sentiment que ça va continuer. Donc, ils ont arrêté un porte-parole d'un syndicat kanak. Ils l'ont transféré à Paris dans une prison ici, au chaud. Ils ont rearrêté deux militants, paraît-il. Enfin, c'est ce que j'ai vu à un journal télévisé. Et ça me narre. Franchement, ça me narre. Donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit à l'époque. Et je pensais qu'en écrivant ce texte, ça serait fini, ça s'arrangerait. Voilà. Alors, le texte. Bon, ça commence comme ça. À part ça, apartheid, Kanaky, de l'importance de la trajectoire d'un projectile se fichant tranquille de la vie de sauvage. Enfin, messieurs, pouvons-nous nous permettre d'interdire la chasse. Terroristes aujourd'hui, avant-hier partisans, on voudrait nous fixer dans des rôles imbéciles où la peur nous cantonne en brave vieille pute. Admettez donc, messieurs, que le délire de foutre tout en l'air un soir me visita, si ce n'était la crainte. Compagne du rêveur, salut fraternité. Est-ce la camisole librement enfilée de panoplie hasardeusement humaine qui fait qui? Aujourd'hui, on chasse du sauvage sur un caillou dans un coin d'océan vaguement pacifique. La terre a avalé ses enfants. Déjà, les fleurs, les insectes, les arbres, le vent, chantent l'histoire des hommes qui se sont tus.
Merci Jean-Claude. Tout à l'heure, avant de venir, là, nous étions en visioconférence avec une grande poète de Nouvelle-Calédonie, Imma Sango, qui disait que le pays allait vers la guerre civile, que elle a son fils qui est là-bas, elle est à Bordeaux actuellement. Elle disait, bon, la guerre civile, c'est demain, quoi. C'est demain, là-bas. Mais moi, je suis poète, disait-elle, et il faut que la poésie... Moi, je veux répondre à ça par la poésie. Voilà. Et donc, la poésie est de plus en plus importante. Et là, ce qu'elle peut dire, elle, comme créatrice de poésie ici, imprégnée de son pays, la Nouvelle-Calédonie, c'est que par la parole, par la langue par le langage, on peut et on doit, évidemment, avoir une action contre ça. Voilà. Je n'irai pas plus. Voilà, donc une pensée très forte pour elle, pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis on va continuer quand même à parler de ces fameuses dames de la carte du ciel, puisque je voudrais qu'on puisse lire un extrait pour qu'on ait un aperçu de ce qu'est ce livre, qui est un livre qui va faire référence justement. En définitive, on a parlé beaucoup de Toulouse, là, puisque avec AZF, c'est quand même un des événements majeur donc du 21e siècle à Toulouse. Et puis là, on va retrouver aussi, dans ces dames de la carte du ciel, on va retrouver l'histoire de Toulouse. Je pense à Maurice Magre, par exemple, ouais. Dont tu fais allusion dans ce livre.
Hein. Et un éloge.
Oui, l'éloge. C'est bien, ça. C'est bien.
Ben, disons, enfin, Magre, ici, enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est genre écrivain oublié, on a mis ça sous le tapis, alors que, à mon sens, mon homme l'a dit, c'est un des mecs les plus importants qu'on a, qu'on aura, enfin, et donc qui a écrit un bouquin, ça s'appelle Le Sang de Toulouse, hein, et c'est un bouquin remarquable, qui veut comprendre ce qui s'est passé avec les cathares, doit lire Magre, mais pas que pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Parce que c'est un auteur, mais en même temps, c'est un poète. Hein. Et il y a un souffle. Il y a un souffle là-dedans. Donc, j'en avais discuté avec un ami parisien qui m'a envoyé dans les cordes en me disant « Ouais, mais vous avez des goûts bizarres ici. » D'une part, Magre a eu, à la fin de sa vie, le prix de l'Académie française. Enfin, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais bon, toujours est-il, il l'a eu. Et puis, Magre sort d'une famille de dignitaires républicains. Son père était sous-préfet. Et donc, à un moment donné, j'ai cherché la tombe de Magre dans le cimetière. Alors, un jour, j'arrive au cimetière, il y avait un mec, une sorte de guichet, un mec derrière. Bonjour, monsieur, bonjour. Je cherche la tombe de Maurice Magre. C'est qui? Alors j'y explique, c'est un poète, enfin voilà, il est mort à Nice, il a été enterré ici. Et il me dit, comme ça, date de la concession. Date de la concession, ah ouais. Non, je lui fais là, je peux pas, enfin, je suis désolé, non, je sais pas.
Il ne connaissait même pas.
Non.
Le gardien du cimetière ne sait même pas, bon.
Et descend de l'escalier, ouais. Le conservateur des cimetières,
ah oui,
qui s'enquiert, qui me demande « Vous cherchez quoi ?» J'y explique, je cherche Maurice Magre. Le frère de René. Et oui, relu le secrétaire général de l'Élysée, quoi. Voilà. Le frère de Magre était le secrétaire général de l'Élysée. Voilà. Et donc il m'a dit section 4, machin. Voilà. Et donc j'ai retrouvé la tombe de Maurice Magre. Et d'ailleurs, enfin, il y a une équipe. C'est bizarre l'histoire de Magre. Enfin, si un jour un auditeur. J'aurais aimé ou j'aimerais savoir ce qu'est devenu son ex-femme. Quoi.
Jean-Claude Solana, on irait très perdre le temps. Donc ouais. Je propose une chose. Nous allons reparler. La semaine prochaine, nous allons reparler de ces fameuses dames de la carte du ciel. Donc, voilà. La semaine prochaine,
ce sont de drôles de filles à venir vous parler de ce livre. Voilà.
En attendant, merci à vous trois. Merci à Meryl Marchetti. Merci à Capitaine Slab. Merci à
Jean-Claude Solana.
Et à la semaine prochaine, à 17h.